Cage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages.
Salut, c'est Kate.
Salut, c'est Henri.
Et à la technique,
Maëlle, salut.
Et moi-même, pile.
Du coup, on fait cette émission sur la répression pénale et policière de l'homosexualité, qui est un thème qu'on n'avait jamais vraiment abordé en détail. Du coup, nous, on fait cette émission sur l'enfermement, la répression et le contrôle. Et par contrôle, on entend aussi le contrôle du pouvoir que l'État s'arroge sur nos vies, nos corps et aussi nos sexualités. Ça nous amène dans Carapatage à parler des meufs trans en prison, des arrêtés municipaux qui visent les travailleuses du sexe, de la criminalisation de l'avortement et aujourd'hui de revenir sur l'abolition en 1982 de la dernière loi qui discriminait l'homosexualité et qui était une mesure discriminante pour les homosexuels dans le cadre d'outrage public à la pudeur ou dans une différenciation de l'âge de la majorité sexuelle. Ça se passe une actualité avec laquelle j'avais envie de le relier au début de cette émission, c'est le décès d'un étudiant non binaire qui s'appelle Nex Benedict, qui avait 16 ans aux États-Unis au début du mois de février, suite au fait qu'elle a été frappée à mort par d'autres élèves de son école en Oklahoma aux États-Unis. Le contexte aussi de cette émission, c'est une vague de violence et de revendications contre les droits des trans aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on peut faire des ponts entre l'homophobie des années 70, dont on va discuter aujourd'hui, et la montée en puissance de la transphobie dans les années 2020, avec l'instrumentalisation des enfants et de leur protection par le discours public et les réactionnaires qui contribuent en réalité à mettre en danger les enfants trans d'une part et à préserver la morale bourgeoise d'autre part.
Après, du coup, on va parler que de la France métropolitaine et dans un contexte aussi d'homophobie permanente actuellement, quoi. Mmh. Même s'il n'y a plus de loi en tant que telle contre l'homosexualité.
Et du coup, moi, je vais commencer par un petit retour historique sur l'abrogation du crime de sodomie en 1791. Donc en fait, c'est ce crime, il est aboli par les révolutionnaires après la révolution dans le nouveau code pénal. Et en fait, le crime de sodomie, en fait, ça a condamné à la peine de feu les homosexuels en théorie, mais c'était déjà à ce moment-là un crime qui était de moins en moins appliqué. Où en fait, dans les faits, déjà à ce moment-là, dans les années 1700, les relations homosexuelles, elles sont punies souvent plutôt par des jours de prison. Et en fait, la police, dans ces années-là, pour identifier les relations homosexuelles, utilisait des personnes recrutées parmi les prisonniers qui faisaient semblant de chercher une relation sexuelle dans des lieux de drague pour après arrêter leurs victimes en flagrant délit. Et donc, à cette période, il y a plusieurs centaines d'hommes qui sont arrêtés par an. Et déjà à ce moment-là, sur la criminalisation de l'homosexualité à cette période, l'aristocratie était. Il y avait plus de clémence des juges pour les aristocrates que pour le tiers d'État à cette époque. Et je voulais revenir rapidement pour un peu. dans cette période, sur la dernière exécution qui a eu, enfin une des dernières exécutions qui a eu pour unique motif de sodomie, donc c'était en 1750, où là c'est un artisan et un domestique qui sont surpris dans la rue et qui vont être condamnés au bûcher. Et déjà à l'époque, ça avait été considéré comme une peine déjà, enfin une peine très sévère. Donc ils avaient d'abord passé 6 mois en prison, à la prison du Châtelet, et après ils avaient été condamnés à la peine maximale, donc la mort par, enfin sur le bûcher. Voilà. Et notamment, ce qui est dit un peu dans les archives de l'époque, c'est que cette peine, elle avait été très sévère aussi, parce que voilà, c'était 2 ouvriers et pas des personnes de l'aristocratie à ce moment-là. Et donc voilà. Et à cette période, les autres homosexuels qui avaient été condamnés au bûcher, en fait, généralement, c'était aussi parce que ils étaient aussi coupables de pédophilie ou alors de meurtre. Et du coup, juste le crime de sodomie, c'était une circonstance aggravante, mais c'était aussi parce qu'ils étaient condamnés pour d'autres faits. Et donc, en fait, entre 1714 et 1783, il y a eu 5 personnes qui ont été exécutées pour sodomie avant que cette loi soit abolie. Donc voilà, et donc je voulais revenir un peu sur cette dépénalisation de ce crime-là. Et en fait, il faut savoir que après cette dépénalisation qui a eu lieu, en fait, il y a eu d'autres délits qui ont été après utilisés pour réprimer l'homosexualité de manière différente. Et du coup, ça va être notamment par le délit d'atteinte à la pudeur et le délit d'incitation de la jeunesse à la débauche. Où du coup, là, ça va plus être le crime de sodomie, mais une autre manière de réprimer et une autre répression de l'homosexualité par ces délits-là qui vont continuer jusqu'à quand ça a continué finalement.
Jusqu'à la fin du XXe siècle. Je peux rajouter un truc l'outrage public à la pudeur. À la base, c'est un délit qui concerne tout le monde, homosexuel et hétérosexuel. Mais le fait est qu'en fait, et dans le ciblage des flics et dans les jugements qui sont décidés par les tribunaux, c'est principalement les homosexuels qui vont être visés par l'utilisation de cette loi tout au long du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, avec une compréhension assez large de ce que c'est un outrage public à la pudeur, c'est-à-dire que les arrestations, elles peuvent aussi avoir lieu dans des lieux privés, dans des clubs, dans des boîtes de nuit. Et ça sert parfois simplement à silencier, à faire peur avec des gardes à vue qui donnent pas forcément lieu à un jugement. En tout cas, une sorte de répression qui est un peu maintenue dans ce cas-là, principalement les mecs homosexuels, puisque les meufs, on y reviendra peut-être plus tard, sont plus invisibilisées et plus cantonnées à la sphère domestique, déjà en tant que meuf, simplement au 19e siècle, quoi.
Oui, grave. Il y a à cette époque aussi des brigades, un peu la brigade des mœurs, ou qui après va être rebaptisée la brigade mondaine, et qui du coup en effet contrôler différents lieux qui vont après être soupçonnés d'être fréquentés par des homosexuels, et qui comme tu disais, va permettre de continuer ce harcèlement policier, ce harcèlement judiciaire pendant toutes ces années au 19e et au 20e siècle. Et qui vont aussi surveiller particulièrement certains espaces publics. Donc, on peut trouver. Enfin, ça va, par exemple, ils vont notamment surveiller les urinoirs, qui vont devenir aussi un lieu de rencontre sexuelle, un lieu de sociabilité sexuelle pour les homosexuels, pour les mecs homosexuels. Et du coup, ça va être des lieux qui vont être. Où va y avoir des descentes de la police fréquentes et où les gens vont être poursuivis pour outrage public à la pudeur. Et après, je voulais un peu revenir sur cette historique là dire un peu comment enfin voilà de parler un peu de au fil des années aussi, comment ça va se passer. Donc, il y a cette répression, ce harcèlement policier, judiciaire. Mais en fait, ça n'empêche pas non plus le fait que, en fait, Paris, ça va être considéré aussi comme des capitales gays avant le régime de Vichy, où il y a quand même, malgré cette répression qui est constante, le fait qu'à partir de la fin des années 1890, va y avoir quand même l'émergence à Paris d'un monde gay avec de nombreux lieux de sociabilité. Donc, ça va être, voilà, va y avoir des bars, des bistrots de quartier, des cabarets, des cafés, des bains, ce qu'ils appellent des bains de vapeur, où ça va être, voilà, il va y avoir de nombreux lieux de sociabilité gay qui vont être créés, des lieux de rencontres sexuelles aussi qui vont exister, que ça soit dans ces lieux, enfin dans ces lieux commerciaux, mais aussi toujours l'utilisation de certains lieux publics qui vont toujours continuer, qui vont continuer à être des lieux de rencontre. Donc, par exemple, à cette époque, un des lieux de rencontre, le lieu de rencontre en plein air le plus homosexuel, c'est les Champs-Élysées. Et il y avait donc voilà des quartiers, enfin ce qui vont être considérés comme des quartiers gays à l'époque, où va y avoir à la fois de nombreux établissements divers commerciaux, mais aussi de nombreuses personnes homosexuelles qui vont habiter dans ces quartiers-là. Donc ça va être notamment du côté de la Bourse, du Faubourg Montmartre, avant la Première Guerre mondiale. Donc en fait, pour donner un peu un chiffre, avant la Première Guerre mondiale, on estime qu'il y avait de 90 à 100 établissements considérés comme homosexuels à Paris. Et du coup, ça en fait voilà, un des lieux, une des capitales européennes où il y a le plus d'établissements gays. Et donc, il y avait de nombreux lieux. Donc là, c'est pour les hommes homosexuels, mais il y avait aussi de nombreux lieux pour les lesbiennes, notamment de nombreux cabarets qui vont être créés, des bars aussi lesbiens qui vont exister à cette époque. Et du coup, voilà, ça va être des lieux de sociabilité importants, de rencontres. Voilà, où il y a aussi une plus grande visibilité dans l'espace... dans l'espace public, et pareil après la Première Guerre mondiale, où va y avoir une grande visibilité de ces établissements là qui vont exister à Paris, donc toujours de nombreuses boîtes, de nombreux bars aussi vers Montparnasse, Pigalle, Montmartre, où va y avoir de nombreux établissements. Et et donc il y a un bal connu et aussi d'autres lieux où les homosexuels peuvent danser entre eux, parce qu'en fait, pour rappel, à cette époque, à partir de 1910, il y a un décret qui interdit la danse entre hommes. Et du coup, voilà, dans ces lieux-là, ça va être des lieux où ça va être possible, mais à leur risque et péril, où peut toujours y avoir des descentes de la police qui entraînent des arrestations, des possibles peines de prison, des amendes. Et en fait, et ce décret qui interdisait la danse entre hommes, il va aussi être réactivé, il va être utilisé pour faire fermer, à partir de 1934, des établissements qui vont tolérer la danse entre hommes. Et du coup, voilà, il y a toujours à la fois l'existence de tous ces établissements-là, mais en fait la répression qui existe toujours et qui va passer dans ces cas par des ordonnances, du préfet de police, pour essayer quand même de réprimer cette visibilité ou cette existence publique qui s'affiche dans Paris, quoi.
Et on va retourner à ce qu'on appelle la répression au moment du régime de Vichy.
Au début du régime de Vichy, il va y avoir la création d'un nouveau décret qui fait que la majorité sexuelle passe à 21 ans pour les relations entre personnes de même sexe, contre 13 ans à l'époque pour les personnes en relation hétérosexuelle. C'est un décret du 6 août 1942. Donc la conséquence, c'est que ça discrimine et ça criminalise spécifiquement les relations entre personnes homosexuelles, des relations qui, pour des personnes hétérosexuelles, ne seraient pas tombées sous le coup de la loi et n'auraient pas été criminalisées. Et ce décret, il ne va pas être remis en cause à la Libération parce que le gouvernement, au moment de la Libération, va juger qu'il est nécessaire pour la protection des mineurs. En réalité, au moment du régime de Vichy, il n'aura pas vraiment d'impact immédiat sur la répression, si ce n'est ce que je vais, signaler après. Et il faut aussi noter qu'il est issu de la Troisième République, qui avait déjà dans cette idée de prévenir la corruption des mineurs du danger de l'homosexualité. Et que voilà, ce n'est pas une mesure a fortiori du régime de Vichy en particulier, c'était dans la continuité de la politique française de lutte contre l'homosexualité. Alors, au moment de la Seconde Guerre mondiale, du coup, il y a l'Alsace-Moselle qui est annexée par l'Allemagne. Et donc, le code pénal allemand va s'y appliquer, ce qui va donner lieu à un fichage des homosexuels dans ces deux régions-là, à des détentions et aussi à des envois vers des camps de concentration. Parce que en Allemagne, peu après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il y a le paragraphe 175 qui criminalise l'homosexualité, qui est durci afin que tout acte sexuel ou même expression de désir entre hommes tombe sous le coup de la loi. À ce moment-là, la peine maximale est de 10 ans de travaux forcés. Et un an après cette nouvelle loi, en 1936, l'Office central du Reich pour combattre l'homosexualité et l'avortement est créé. Donc c'est intéressant de voir comment l'homosexualité et l'avortement sont en fait font partie sont mis ensemble dans un même office. Et comme on l'avait dit plus tôt, le lesbianisme n'est pas concerné à ce moment-là. Pour revenir plus précisément sur la déportation de ce qu'on a appelé plus tard les triangles roses, faut savoir que le nazisme, même s'il y avait pas mal d'homosexuels parmi les nazis, la manière de considérer l'homosexualité, c'est comme un danger pour la population allemande qui doit maintenir des taux démographiques, se reproduire, etc. Et les homosexuels sont considérés comme étant inverse à cet objectif, ne pouvant pas créer des enfants. Ils vont être la majorité, donc il va y avoir des condamnés allemands par rapport à l'homosexualité qui vont être envoyés en prison, en hôpital psychiatrique pour être parfois rééduqués ou même euthanasiés, et certains en camp de concentration, sachant que ça va toujours concerner seulement 1% des effectifs total des camps de concentration, dans lesquels ils seront en bas de la hiérarchie. Juste au-dessus des juifs, et on leur donnera des tâches difficiles de manière à ce que, par exemple, certaines lesbiennes soient obligées de se prostituer au sein des camps. Je pense que c'est important de dire que ça concerne une faible proportion des déportés, et que aussi certains déportés l'étaient pour des raisons politiques, parce qu'ils étaient communistes, parce qu'ils étaient résistants, etc. Et dans ces cas-là, leur homosexualité pouvait constituer une circonstance aggravante qui faisait qu'ils étaient encore plus discriminés au sein de ces hiérarchies. Et je pense que c'est important de dire aussi que la fin de la guerre et la sortie des camps ne signifie pas nécessairement que la parole se libère, parce que d'une part en Allemagne, que ce soit en Allemagne de l'Est ou de l'Ouest, l'homosexualité continue à être criminalisée et taboue, et qu'il faut attendre, comme en France, où pour le coup elle est criminalisée de manière moins forte, il faut quand même attendre les années 70 pour que les premiers témoignages sortent, avec le développement des mouvements de libération homosexuelle, dont on va longuement parler dans la suite de l'émission. Je voulais aussi ajouter que en fait, la question de l'homosexualité, elle a été instrumentalisée aussi de manière politique pendant tous les procès qui ont concerné les collaborateurs du nazisme en France, où à la fois l'homosexualité de certains collaborateurs pouvait être instrumentalisée pour montrer à quel point c'était des êtres mauvais, leur dépravation, leur violence, leur méchanceté, que sais-je, tout en invisibilisant l'homosexualité de certains des membres de la résistance qui n'étaient jamais mentionnés, qui étaient complètement invisibilisés. Pour préparer toute cette partie, je me suis notamment basée sur le catalogue d'exposition d'une expo qui a eu au Mémorial de la Shoah et qui s'appelait « Homosexuels et lesbiennes dans l'Europe nazie ».
Et du coup, moi, je voulais rajouter que Le régime de Vichy qui du coup, parce qu'on n'a pas trop dit ce que c'était, mais c'est genre la France libre qui du coup est la France qui collabore avec l'autre, avec l'Allemagne nazie et avec donc une partie de la France est occupée et l'autre partie est genre libre. Et du coup, l'État français parlera justement, commémorera les personnes qui ont été envoyées en camp de concentration, enfin sera ajouté, disons, aux commémorations officielles que dans les années 2000. L'État français, avant, n'en parlera jamais, quoi. Et juste pour dire, les triangloses, les personnes sont appelées, enfin, qui ont été envoyées, homosexuelles, qui ont été envoyées en camp de concentration, sont appelées les triangloses parce que c'était comme les juifs avec une étoile jaune, là, c'était un triangloses qui était mis sur leur veste, voilà.
Et c'est un symbole qui a été réutilisé plus tard par ACT UP, qui a retourné le triangle et qu'on a fait un symbole de oui, on est gay et oui, on utilise cette marque qui a été utilisée contre nous, quoi.
Et du coup, on est maintenant à la fin de.
Est-ce que, juste, je voulais rajouter aussi sur ce que tu disais, sur le paragraphe 175 en Allemagne et tout ça. Il y a eu un film dont on a déjà parlé dans Carapatage. On a fait une chronique sur ce film qui s'appelle Great Freedom, qui parle justement d'un homme allemand homosexuel qui est incarcéré dans une prison d'Allemagne de l'Ouest, suite notamment au fait qu'il a eu des relations sexuelles avec des hommes, et du coup ça parle de son incarcération et de la criminalisation de l'homosexualité dans l'Allemagne nazie et après la fin de l'Allemagne nazie, après la fin de l'Allemagne nazie, et du coup vous pouvez retrouver cette chronique dans l'émission Carapatage 42 et on mettra le lien sur notre blog.
Et du coup on est après la Seconde Guerre mondiale. On est en 1954 et le premier numéro d'une revue, d'une association homosexuelle qui existe déjà depuis quelques années, le numéro Arcadie, est interdit d'affichage et de vente aux mineurs. Des poursuites pour outrage aux bonnes mœurs, des saisies et des amendes pour le fondateur et directeur de Arcadie. Et ça... ça se passe, ça existe parce que dans le cadre de cet arrêté préfectoral de 48 qui, dont on a parlé déjà, qui interdit aux hommes de danser ensemble en public et qui interdit aussi le revenu au contenu homosexuel. C'est du coup ça, c'est un peu voilà la suite de l'héritage du régime de Vichy. Et c'est aussi dans cette qui s'occupe un peu de ça, c'est entre autres à Paris cette brigade qui se surnomme groupe de contrôle des homosexuels. Et donc on passe aux années 60 et aux années 60 il y a un député Mirguet qui rajoute un amendement à déjà une loi déjà merveilleuse qui s'appelle Mesures nécessaires pour lutter contre certains fléaux sociaux en France, dans lesquels il y a la toxicomanie, la prostitution, la tuberculose et pourquoi pas l'homosexualité en fait.
L'alcoolisme aussi.
Ah oui, pardon.
On l'avait oublié.
Excusez-moi. Et donc cette loi qui va exister de 1960 à 1978, et donc cet amendement en particulier, double les peines encourues pour outrage à la pudeur. Donc 3 ans d'emprisonnement et 15 000 francs d'amende, ce qui fait environ, bon, disons c'est un peu tiré par les cheveux, mais 25 000 euros d'amende en cas de rapport homosexuel ou commis par un homosexuel, donc dite contre notre nature, avec un individu du même sexe. Donc c'est une loi qui renforce clairement la stigmatisation des homosexuels. Et donc cette répression là qui s'accentue, qui commence avec ces lois dans les années 50, qui s'accentue dans les années 60, c'est la période d'après-guerre, donc comme on disait déjà, avec déjà dans les années 50, avant cette loi, de nombreuses arrestations, plusieurs centaines de condamnations. Et en fait, c'est le moment où il faut exalter la famille, la natalité, et disait De Gaulle, la France a besoin de 12 millions de beaux bébés. Précisons, beau bébé.
Beau, s'ils sont moches, c'est mort.
C'est fini. Donc, voilà. Donc c'est un moment où il faut...
Il faut se reproduire.
Ouais, et qu'il y ait une belle moralité et l'hétérosexualité est la seule norme. Excusez-moi, petit... Et du coup, ça implique une augmentation des contrôles de flics dans les lieux de drague homosexuels, sur les personnes travesties, etc., trans, dans les parcs, dans les WC. Et donc, ça, des contrôles, des arrestations et des condamnations. Et ces condamnations qui sont souvent publiées dans le journal, qui, du coup, dans les journaux locaux, pas locaux. Et donc, ça va être souvent, ces condamnations vont être suivies de licenciement, de perdre son travail, de désapprobation familiale et du coup, de familial ou de l'entourage, et parfois, du coup, d'exclusion sociale. Ces augmentations de ces contrôles, etc., ça renforce la honte et aussi la clandestinité. Et cette répression, elle va viser majoritairement les hommes, qui sont quand même plus dans la rue, les ouvriers et beaucoup essentiellement des personnes urbaines. Mais en fait, en zone rurale aussi, les gardes champêtres, les gendarmes vont rôder dans les lieux de rencontre homo, un peu en périphérie des villes. À cette époque-là, un peu dans la gauche, disons, il y a l'idée qui se répand aussi parce que il y a une visibilité de certains intellectuels homosexuels que c'est quelque chose, l'homosexualité, c'est quelque chose de bourgeois. Et en fait, on se rend compte en regardant un peu qui est condamné, etc., que c'est pas tout à fait ça. Que par exemple, dès les années entre les années 70 et 60-70, que la plupart, que environ 50% des personnes qui sont condamnées sont maghrébines. Donc, c'est aussi les personnes qui sont plus dans la rue, etc., les personnes aussi qui sont plus souvent contrôlées par les keufs. Voilà. Et du coup, on voit, on imagine les lieux clandestins qui sont perméables à la police, où la police ne va pas, ils sont plus faciles à mettre en place par les riches, qui ont aussi plus le moyen de se défendre, des avocats, etc. Et donc, ils se retrouvent beaucoup moins condamnés que les pauvres, quoi. Au classique, hein. Mais du coup, là, quand même, un truc de visibilité et d'invisibilité, enfin, d'avoir des endroits où se cacher ou pas et pouvoir. Et du coup, je disais que c'est les personnes qui sont un peu disponibles à la police, qui sont dans les lieux les plus vulnérables, etc. Et donc, les flics ont à la fois le fait de user de la force, menacer, violenter, etc., punir, mais aussi de surveiller, surveiller la sexualité en fait de la population, quoi. C'est un rôle des keufs, quoi. Un peu pour recenser, moi je vais pas trop rentrer dans les chiffres, mais en gros, parce que les relevés, ils sont pas forcément évidents, parce qu'en fait, des fois, c'est mêlé avec d'autres types d'infractions, selon le code pénal, quoi. Et donc, du coup, le recensement est plus ou moins facile, mais il y a un peu des infractions, des chiffres en termes d'arrestations, etc., des comparaisons qui sont faites avec d'autres pays européens, etc., que c'est possible de trouver. Et je voulais revenir un peu spécifiquement sur la répression des lesbiennes, parce que c'est essentiellement des hommes qui sont condamnés. De fait, il y a plusieurs raisons qui font que les femmes sont moins condamnées, que déjà la sexualité féminine est invisibilisée en général, qu'on s'y intéresse pas, et donc celle des lesbiennes, pas non plus. Que la répression judiciaire, elle va plutôt être autour des relations hors mariage. L'ordre moral, c'est plutôt ça qui va être pas mal réprimé, quoi. Que la réponse judiciaire, elle va souvent être d'ordre psychiatrique et pas pénal pour les femmes, mais aussi que on en a déjà parlé pas mal dans ces émissions, mais que la répression des mineurs en particulier pour les femmes a pas du tout, pour les personnes assignées femmes à la naissance, a pas du tout évolué comme la répression des mineurs hommes, parce que les bons pasteurs vont, par exemple, durer jusque dans les années 68-70. Et donc, en fait, sur demande du juge ou de la famille, les lesbiennes, mais aussi les personnes qui ont été violées ou qui ont eu des relations hors mariage ou qui ont été enceintes, sont envoyées pour prostitution, sont envoyées donc,
dans
ces pensionnats. De toute façon, pour eux, c'est du pareil au même, sont envoyées dans ces pensionnats, mais pas par une condamnation. Et parfois, ça passe par la famille. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a moins de femmes qui sont condamnées. Et je voulais rajouter deux, trois choses pour passer à quelque chose d'un peu plus... voilà, après la répression, il y a quand même la lutte. Et du coup, ben voilà... Tout ça, quand même, pas commence dans les années 68, parce qu'on voyait déjà qu'il y avait des associations, des revues, etc. Mais je voulais aussi dire que, au niveau culturel, tout ce qui pouvait être genre publication, écrit, qui avant-guerre était quand même assez visibilisé par des écrivains, des écrivaines qui parlaient de relations homosexuelles, etc., et qui visibilisaient leur homosexualité, et ben tout ça après la guerre c'est beaucoup plus réprimé, il y a de moins en moins des maisons d'édition qui refusent de publier des livres, etc. Voilà. Et du coup en 68, bah il y a un moment sur la Sorbonne, parce que c'est le lieu disons visible, en tout cas c'est à cet endroit-là qu'on s'en rappelle, il y a le Comité d'action pédérastique révolutionnaire, qui est une organisation étudiante qui à travers des affiches, on parle de 8 affiches, vont vanter la liberté sexuelle des minorités érotiques, homosexuelles, voyeurs, masochistes, partouzeurs. Et du coup, globalement, bah, après 68, il y a plus une parole qui va plus s'affirmer. C'est dans ce contexte, on va en reparler ensuite, qu'il y a des formes plus radicales de lutte qui vont arriver avec le phare des groupes féministes et antiracistes, qui vont être aussi plus... dans une perspective révolutionnaire que sur une lutte, sur une loi en particulier. Et un des moments genre un peu fondateur du phare et du mouvement homosexuel, c'est la perturbation, l'interruption d'une émission sur RTL qui s'appelait Allô Ménie. Et du coup, il y a des personnes du MLF et du phare qui vont intervenir. Le sujet, c'était homosexualité, ce douloureux problème, avec des prêtres et des psys. Voilà. Et voilà un peu ce qu'on voulait dire sur l'époque. J'avais quand même envie de rajouter un truc un peu hors sujet et hors, hors pays de la France. C'est en 1969 que à New York, pour dire un peu dans quel contexte on est, genre dans un bar gay, c'est la révolte de Stonewall contre des flics. Et en un moment, voilà.
Contre aussi le harcèlement policier, les gardes à vue, les arrestations, la violence des flics. Donc dans un contexte qui ressemble un peu à celui de la France, mais... voilà, et qui est un peu un moment fondateur aussi du mouvement homosexuel aux États-Unis et ailleurs dans le monde, quoi.
Et du coup, Maëlle, tu voulais faire une petite précision, revenir sur ce dont on a parlé auparavant.
Ouais, je vais juste revenir sur le truc du paragraphe 175 allemand, parce que je trouve que c'était assez intéressant, parce qu'on a parlé au début de l'émission du lien des politiques de répression de l'homosexualité qui perdure. Et le cas du paragraphe allemand, il est pas mal parce que... Enfin, il montre bien ça. Parce que du coup, c'est un paragraphe qui avait été créé avant l'Allemagne nazie, comme ça a été dit, qui a été aggravé par le régime nazi. Et ensuite, c'est la seule catégorie créée par le régime nazi qui a perduré sans même être modifiée jusqu'en 1969. Et ensuite, en 1969, ça a été modifié, mais juste pour revenir à la version de avant la loi nazie. Et du coup, le paragraphe 175, il a existé jusqu'en 1994. Et du coup, beaucoup de les personnes qui avaient été internées sur cette base-là pendant la guerre et pendant le régime nazi ont pour beaucoup été réinternées, enfin du coup, pas internées cette fois, mais incarcérées par l'État, et ça vaut pour les deux États, de l'Ouest et de l'Est, même s'il y a des variations, mais globalement, les deux ont fait la même chose. Et du coup, on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont eu des peines de prison, parce que sachant que dans plusieurs des cas, il y avait aussi des peines planchées pour ce délit, et du coup, il y a eu beaucoup de prisons fermes en Allemagne après la guerre. Et oui, parce que du coup, c'est entre autres resté, parce que la cour... Enfin, le système de justice constitutionnelle allemand a considéré que la loi nazie, elle était contre l'homosexualité, elle n'était pas influencée par l'idéologie nazie, et que du coup, elle était compatible avec l'idéologie homophobe de base, quoi.
Et donc, maintenant, retour dans les années 70.
Oui, du coup, je vais un peu continuer à parler du phare dont tu parlais juste avant, pile, où du coup, le phare, c'est le front homosexuel d'action révolutionnaire, où du coup, il y a eu cette première action qui a posé un peu les bases. Il y a eu une autre action Un autre coup d'éclat un peu du phare, c'est la participation avec le MLF à la manif du 1er mai 1971, où c'est un peu aussi une des premières apparitions publiques de l'homosexualité dans l'espace politique traditionnel, du coup, de la manif du 1er mai, où là, le mot d'ordre qui va être porté, ça va être « Lesbiennes et pédés, arrêtons de raser les murs ». Et du coup, en fait, voilà, le phare, ça va être... le phare, il va revendiquer notamment comme dans des mouvements féministes, que le privé est politique et ça remet en question la virilité masculine et ça aspire aussi à détruire la famille hétéropatriarcale. Ça s'inscrit aussi dans un discours de lutte des classes, dans un discours révolutionnaire, le phare, ça va porter des mots d'ordre révolutionnaire, et voilà. Et donc après, dans le phare, au départ, ça a été créé aussi par des lesbiennes, et après, les lesbiennes vont en partir face notamment à la misogynie aussi qui peut y avoir qui pouvait y avoir à l'intérieur, et qui vont fonder l'Aiguine Rouge. Je sais pas si tu veux rajouter un peu des choses, si vous voulez rajouter un peu des choses sur le phare rapidement, mais...
Ben, en tout cas, par rapport à ce que tu disais pile tout à l'heure, dans le phare, il y avait vraiment ce truc de sortir l'homosexualité du placard artistique et de la bourgeoisie, et que c'était aussi un truc qui concernait les ouvriers, malgré ce que disaient les mouvements de gauche et d'extrême gauche, comme quoi les ouvriers n'étaient pas concernés par l'homosexualité. Ben, le truc du phare, c'était de dire c'est faux, et aussi que l'homosexualité et la classe sont deux sujets importants, et que les PD patrons, ils sont PD, mais bon, ils sont patrons aussi, quoi.
Et de se réapproprier à son compte par exemple, en se chantant en manif du 1er mai, en faisant un cortège, en disant nous sommes le fléau social.
Oui, et se réapproprier ce truc.
Oui, et c'était aussi se positionner face à certains groupes d'extrême gauche aussi. Bah, tu parlais du PCF par exemple, mais aussi de groupes d'extrême gauche de l'époque qui pouvaient être où cette question n'était pas pensée, et qui étaient aussi des groupes homophobes sur ces questions-là, et du coup porter d'autres trucs révolutionnaires en dehors de ces
mouvements d'extrême gauche. En tant que militant, en ayant eux-mêmes été parfois exclus de ses propres mouvements, et en du coup recréant leur propre, enfin en tant que militant homosexuel, quoi, en recréant leur propre mouvement.
Et du coup, après, donc le phare, ça va durer jusqu'en 1974, où ça va finir par se dissoudre. Et du coup, va y avoir ensuite, dans les mouvements de lutte, va y avoir ce qui va s'appeler les groupes de libération homosexuelle, les GLH, qui vont se fonder en 1974 à Paris. Et qui après va se scinder en plusieurs tendances à l'intérieur de ça. Mais du coup, en gros, avec les GLH, c'est aussi des groupes de libération homosexuelle qui vont exister, pas que à Paris, où le phare, c'était quand même ça, c'était aussi beaucoup à Paris, mais aussi là, dans beaucoup de villes de France, va y avoir ces groupes de libération homosexuelle qui se créent. Et qui vont, comme le phare aussi, c'était l'idée de faire exister aussi des revendications qui n'étaient pas portées par l'extrême gauche, que l'extrême gauche portait pas à cette époque. Et structurer un mouvement à l'échelle nationale avec les groupes de libération homosexuelle, avec des rencontres, des coordinations, avec des stratégies collectives aussi à une échelle de la France. Et donc, il y a un peu plusieurs tendances dans les GLH, mais juste pour revenir rapidement sur un peu c'est quoi les différents trucs qui pouvaient être portés de lutte, qui étaient portés à cette époque. Du coup, il y a ce qui va s'appeler le GLH groupe de base, où ça va être plutôt sur l'idée d'une identité homosexuelle inclusive, où l'idée, ça va être de faire communauté, de regrouper aussi les homosexuels, peu importe leurs différences entre eux, notamment les différences de classe. Et du coup, là, par rapport à ce que tu disais sur le phare, où l'idée, c'est que on peut être PD, mais aussi patron. Et du coup, là, ça va être plutôt l'idée de faire communauté ensemble, de porter, de former un mouvement de masse, et aussi de s'adresser à tout le monde, que ça soit le patron comme l'ouvrier, l'ouvrière, alors que du coup, et par rapport, et l'autre tendance qui va exister un peu en contre de ça et qui va être plus proche de ce qui était porté un peu par le phare, ça va être la tendance qui s'appelle politique et quotidien, où là ça va être toujours où ça va être l'identité homosexuelle, ça va quand même être perçu comme une figure aliénante imposée par la société bourgeoise, et avec toute une critique aussi des ce qu'ils vont appeler le ghetto, et du coup toute cette aussi ce qui va exister en les lieux commerciaux gays qui vont exister, qui se développent aussi à cette époque, et avec voilà, dans une perspective de lutte des classes et révolutionnaire toujours, où faut voilà, où l'homosexuel peut être révolutionnaire mais aussi doit pas mais l'est pas forcément, parce que peut y avoir voilà de la récupération par certaines l'idée de se positionner contre l'intégration dans la société hétérosexuelle, contre la récupération de certaines luttes. Et du coup, voilà, c'est un peu ça, les deux tendances, avec le slogan de cette tendance, ça va être pas de révolution socialiste sans révolution sexuelle et pas de révolution sexuelle sans révolution socialiste. Du coup, ça va être un peu ça, les deux tendances de lutte qui vont exister à cette époque. Et en fait, donc voilà. Et en fait, les GLH, ça va aussi peu à peu disparaître. Dans les années 1978, ça va être un peu voilà, les derniers groupes qui vont un peu qui commencent à s'essouffler aussi à cette époque. Et en fait, c'est à cette époque-là, va y avoir aussi une nouvelle phase de répression qui va se mettre en place à la fin des années 70. Du coup, en fait, là, les journaux vont être à nouveau censurés. Ce que tu disais tout à l'heure, pile sur la question de la censure des journaux, de certains journaux, notamment Arcadie, qui est censuré. Du coup, là, c'est le retour aussi de cette censure qui va être de nouveau appliquée. Va y avoir des procès aussi qui vont se multiplier. À cette époque, donc à un moment, au niveau de la législation, il y avait eu un amendement qui avait été déposé au Sénat pour abroger la loi sur la différence de majorité. Et en fait, cet amendement, il va pas passer devant l'Assemblée nationale en novembre 80. Et donc, en fait, cette proposition, parce que la majorité s'y oppose, et du coup, ça va être une... la loi va rester. Et du coup, voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que c'est une période où il y a de la répression, notamment des grands procès. Il va y avoir le procès du Manhattan, où c'est, du coup, justement... une descente de police dans une boîte de nuit qui va arrêter de nombreux homosexuels dans les backrooms de cette boîte de nuit. Et du coup, ça va être un procès aussi, un procès très médiatique, parce que, en fait, les personnes qui vont être inculpées pendant ce procès vont justement revendiquer leur homosexualité et dire, et du coup, avoir un discours politique aussi sur cette loi, sur cette répression qui existe.
Il y avait, dans la boîte de nuit, des flics en civil qui étaient, du coup, ce qu'on comprend dans les témoignages, qui étaient genre, du coup, en train d'être dans la backroom, qui étaient genre nus ou pas très habillés, etc. Et qui d'un coup ont sorti des brassards de police et des en mode, voilà, qui étaient infiltrés vraiment dans l'idée d'arrêter beaucoup de gens et de réprimer l'homosexualité, quoi.
Et du coup, ça va, avec des amendes, des peines de prison de quelques mois, par exemple, deux mois de prison avec sursis ou de... Et donc va de plus en plus y avoir un discours de la part, enfin une lutte qui va aussi du coup se centrer de plus en plus sur cette question de la répression, avec des nouveaux collectifs qui apparaissent, des nouvelles organisations qui apparaissent. Et du coup là, ça va être aussi le début du Queer, qui va être le comité d'urgence anti-répression homosexuelle. Et du coup, en fait, va y avoir de plus en plus un discours qui va être dans une perspective réformiste de il faut lutter pour l'abrogation de cette loi, et ça doit être central dans enfin c'est ce qui émerge dans certains mouvements homosexuels, que ce qui voilà la lutte doit aussi être centrée sur cette lutte contre la répression qui va émerger dans certains mouvements, et que ça va être vu comme un point de convergence des mouvements homosexuels de se centrer sur le terrain législatif contre la répression. Et donc il y a des groupes de libération, enfin les derniers groupes de libération homosexuelle qui existent à cette époque, voilà, il y en a plusieurs qui s'engagent dans cette voie réformiste qui était critiquée même par eux quelques années avant, sur où certains portaient plutôt des positions révolutionnaires, et là ça va du coup plutôt se discours réformiste qui va s'imposer de plus en plus. Et donc le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, il va être créé pendant les premières universités d'été homosexuelles en 1979, où ça va être pensé comme une coordination de groupes, et avec l'idée d'avoir une entité politique à l'échelle nationale, et aussi des groupes à l'échelle locale, où ça va être très structuré aussi. Il va y avoir des instances, une coordination nationale, une commission nationale, et du coup ça va avec une nouvelle structuration et une plus grande structuration des manières de lutter aussi dans les pratiques militantes. Et du coup, l'idée, ça va être aussi dans ce comité de parler, de s'adresser aussi plus aux organisations politiques, syndicales, ce qui ne fait pas forcément consensus au sein de ces groupes, au sein du mouvement, des mouvements homosexuels de l'époque dans les luttes. Une des choses qui va être organisée dans la lutte par ce comité, par le COIR, ça va être du coup après. Cette abrogation de l'amendement qui avait été déposé pour mettre fin à cette loi, il va y avoir un appel à une mobilisation le jour le 23 octobre 1980, où il va y avoir une manifestation de 3000 personnes qui va aller de Saint-Sulpice jusqu'à Odéon. Il y a aussi des pétitions, ça va être mettre la pression aux députés, écrire des lettres ouvertes à des députés, et il va y avoir une nouvelle manifestation qui va être organisée, donc une marche nationale qui va être organisée le 4 avril 1981, donc 3 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle, où en fait l'élection présidentielle, ça va être un moment un peu clé pour ce comité, pour le COIR, où l'idée va être de lancer, de mettre la pression aux candidats pour les obliger à se positionner sur la question notamment de l'abrogation de cette loi et plus largement des revendications des lesbiennes et des homosexuels. L'idée va être de peser dans cette campagne présidentielle. Avec cette marche nationale, elle va réunir 10 000 personnes. Ça va être l'élection de Mitterrand. Enfin, va y avoir l'élection de Mitterrand. Et du coup, le COIR va continuer un peu à mettre la pression à Mitterrand, au gouvernement, pour l'abolition de cette loi, dont on va parler juste après.
Oui, alors du coup, c'est le 4 août 1982 que la loi Forni abroge le délit d'homosexualité et met fin à 40 ans de discrimination légale des homosexuels. Effectivement, c'était une promesse de campagne de François Mitterrand, mais François Mitterrand n'a pas tous les honneurs d'avoir abrogé cette loi via son gouvernement et ses députés. C'est vraiment les luttes, les manifestations, comme tu as dit, l'interpellation des députés, etc. Il y a eu deux autres abrogations en 1980 et en 1981. En 1980, l'amendement Mirguet, dont on a parlé plus tôt, qui avait défini l'homosexualité comme fléau social au même titre que l'alcoolisme, la prostitution, la toxicomanie, etc., est aussi aboli. Et c'était cet amendement qui faisait que la peine était doublée en cas d'attentat à la pudeur commis par un homosexuel.
Et aussi en 1981, la France retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales et détruit le registre, entre guillemets, registre des pédérastes qui était tenu par la préfecture de police et dans lesquels étaient, en fait, c'était un fichage des homosexuels dans lequel étaient référencés les homosexuels. Pour finir, concernant cette partie de lutte pour l'abrogation du, entre guillemets, délit d'homosexualité et de la différence d'âge de majorité sexuelle, je voulais dire deux choses. La première, c'est que il y a eu 10 000 condamnations entre 1942 et 1982. C'était quand même assez conséquent. C'est la fin d'une période où la majorité sexuelle avait été instrumentalisée dans un but homophobe, puisque si les personnes concernées par la loi n'étaient pas gays, elles ne tombaient pas sur le coup de la loi et elles n'auraient pas été condamnées. Et en plus, on voit dans les chiffres des arrestations et des condamnations que la majorité des personnes condamnées, elles étaient très proches de la majorité, ou alors elles auraient été considérées majeures. Parce qu'il faut savoir que, d'une part, l'âge de la majorité a changé au cours de cette période, vu que Valéry Giscard d'Estaing l'a baissé à 18 ans. Et que par ailleurs, les personnes qui étaient concernées par les condamnations auraient été considérées comme majeures.
Et moi, je voulais rajouter qu'il y avait une autre loi qui avait été modifiée sur les conditions de location, où en fait, avant, il y avait la mention pour les locataires d'être des bons pères de famille. Mmh.
Voilà. Et du coup, ça donne des cas pour le coup où des personnes pouvaient être, genre leur bail pouvait être remis en cause, pouvait être supprimé en raison de leur homosexualité. Et c'est des questions, la question du logement, la question de l'emploi, c'est aussi des questions sur lesquelles les groupes locaux et le couard luttaient, étaient actifs, quoi.
Et si même ces questions, cette mention a été retirée, c'est quand même des questions qui restent toujours d'actualité, en fait. Mm-hmm. En général, les propriétaires attendent un couple hétérosexuel qui va louer quelque chose.
Ouais, absolument. Juste sur la question de la majorité sexuelle, je voulais dire que, cette loi-là, cette mesure-là, elle a longtemps entretenu une confusion entre pédocriminalité et homosexualité, et tout le moment où les députés de droite ou les députés de gauche qui étaient contre l'abrogation du délit d'homosexualité, ils disaient que ça allait favoriser la pédocriminalité, que c'était un danger pour les enfants, etc. Toute cette logique-là. Donc, d'une part, il faut prendre en compte cette confusion et cette instrumentalisation, et d'autre part, ça ne veut pas dire que la différence d'âge entre deux personnes, que ce soit dans un couple homosexuel ou dans un couple hétérosexuel, n'est pas un enjeu par ailleurs. Et enfin voilà, c'est pas quelque chose dont on va discuter en particulier ce soir, mais les différences d'âge dans les relations affectives et sexuelles, enfin, restent un enjeu qui peut être source de domination, quoi. Tu voulais dire
Je voulais juste rajouter un truc sur ce que vous disiez. Oui, je l'ai pas trop dit dans ma partie, mais en tout cas sur la question aussi des interdictions professionnelles, c'est aussi un des grands axes de lutte du couard à cette époque-là, mais aussi parce qu'il y a de nombreuses affaires à cette époque-là de personnes qui se font virer, par exemple un surveillant dans un lycée qui se fait virer sous un prétexte
fallacieux.
Fallacieux, mais en fait le fond du truc, c'est qu'il avait, par exemple, on l'accusait d'avoir collé des affiches de groupe d'un événement du groupe de libération homosexuelle, d'autres personnes qui se font un médecin qui se fait interdire sa pratique par l'ordre des médecins parce que justement il est homosexuel, et donc de nombreuses affaires à cette époque-là, et du coup c'est aussi un des grands axes de lutte du queer. Et aussi, peut-être je l'ai pas dit, enfin je l'ai dit vite fait pour le phare, mais aussi sur la question des luttes, la place des lesbiennes, elle est pas toujours évidente aussi dans ces luttes là à la fois parce que du coup elles se retrouvent pas forcément dans les mouvements du MLF, elles se retrouvent pas forcément dans les revendications des féministes hétérosexuelles, et qu'en même temps, et qu'il y en a certaines du coup qui vont, par exemple dans les Gouines Rouges, choisir des luttes, le séparatisme lesbien, et des luttes de lesbiennes, enfin il va y avoir des luttes de lesbiennes radicales qui vont du coup lutter en non-mixité entre lesbiennes, mais que aussi elles vont prendre part à ces luttes dans des groupes mixtes qui ont pu être le GLH, le Queer, mais avec des fois elle doit faire face aussi à dans ces groupes là à de la misogynie, à de la lesbophobie, et que voilà, enfin il y a aussi ces questions là qui se posent, je voulais juste le rajouter dans les luttes aussi sur les lesbiennes.
Pour finir cette partie de la période qui suit la loi d'abrogation, je voulais vous lire un extrait d'un texte qui parle du livre d'Antoine Idier, Les alinéas au placard, l'abrogation du délit d'homosexualité, qui est un livre qui parle de toute cette période, que vous pouvez lire. Je vous lis cet extrait. Paradoxalement, la loi d'abrogation, aboutissement d'une campagne d'opposition à la répression policière et pénale, se construit au long d'une période de crise pour les formes d'action construites dans les années 70, d'offensive du gouvernement sur le terrain de l'insécurité, d'augmentation du nombre de prisonniers et de durcissement de la sécurité pénitentiaire. Et elle aboutit à un moment où, passé les premières réformes importantes, abolition de la peine de mort, de la Cour de sûreté de l'État, etc., les relations entre le gouvernement socialiste et les revendications antirépressives issues des contestations des années 70 vont bientôt se tendre, notamment parce que le nombre de prisonniers reprend sa tendance à la hausse en raison de l'allongement des peines. Le livre invite ainsi, au-delà de l'abrogation des alinéas discriminatoires, à réfléchir sur les contrastes de ce moment de victoire autour duquel d'autres revendications visant la limite de la répression, concernant par exemple les longues peines de prison, vont rentrer au placard. Donc je trouvais que c'était intéressant de faire tout le point sur ces luttes victorieuses du Queer, etc. Et en même temps, de mettre ça en parallèle avec le fait qu'il y a un durcissement de la prison, des lois pénitentiaires et l'allongement des peines en parallèle de tout ça. Pour finir aussi sur cette partie-là, c'est important de dire que les arrestations et le harcèlement de la police, il va pas cesser du jour au lendemain, et que voilà, il y a toujours des pratiques au sein de la police de harcèlement, des mecs gays, de surveillance, des parcs, de contrôles qui peuvent être simplement des contrôles d'identité, mais qui ont pour but de mettre la pression, de foutre la honte. Sur ces formes de drague et de sexualité.
Et du coup, on va pas s'arrêter là. Abrogation, fin de l'émission. Non. On voulait faire un petit et après. Et ce petit et après, il commençait par, en fait, les années 80. C'est aussi le début de l'épidémie du sida. Une épidémie fortement politique qui apparaît. La première apparition, c'est en 81. Le VIH est découvert en 83 et est reconnu à l'origine du sida en 84. Et en fait, il va y avoir un grand nombre de morts dues au sida. C'est 11 personnes en France en 81. Et en fait, en 89, c'est la première cause de décès à Paris chez les hommes entre 25 et 44 ans, par exemple. Avec cette épidémie... qui stigmatise à nouveau, plus ou moins à nouveau,
de manière différente, mais ouais. Intense, quoi.
Et il va y avoir, par exemple, des restrictions, par exemple, au niveau du don du sang, des choses comme ça, qui, par exemple, va être possible pour les personnes qui se déclarent homosexuelles qu'à partir de 2016, en fait. C'est aussi l'extrême droite qui va surfer. Cette épidémie. Mais c'est aussi le moment où il y a plein d'assauts et des suites des mouvements dont on a parlé auparavant qui vont se créer autour de ces questions-là, de faire de la prévention, pouvoir encourager à ce que les personnes aient accès à des tests, pouvoir faire du lobby pour autoriser les pubs pour le préservatif qui va être autorisé qu'en 87, par exemple, la vente libre de seringues. Et tout ça s'est fait essentiellement par des assos communautaires et pas du tout par l'État.
Ouais, bah, je pense peut-être de dire que bah, y a une stigmatisation importante à ce moment-là des homosexuels, parce qu'au enfin les premières années, on ne sait pas trop ce que c'est cette maladie, ce virus. Ça touche majoritairement les mecs gays, donc du coup, ça va entraîner des refus de soins, voilà, des personnels médicaux à l'hôpital qui veulent pas s'occuper des personnes qui ont le VIH. Voilà, une grosse stigmatisation. Des personnes gays dans les premières années et qui a une suite après à la fois dans l'opinion publique et à la fois de l'État, ce qui va nécessiter du coup ces actions communautaires et de lutte pour réclamer des traitements, pour réclamer une prise en compte en fait de cette surmortalité et de ce virus en fait par l'État quoi.
Et du coup, tout à l'heure, on a parlé d'ACT UP, mais du coup, c'est une asso qui va se vouloir plus radicale dans ses actions, dans la portée en comparaison avec d'autres associations. Et du coup, qui va aussi visibiliser, pas que cet asso, mais ce que c'est le sida, avoir le sida en prison, ce que c'est le rapport à la religion, ce que fait la religion à l'épidémie du sida. Mm-hmm. Comment disant que le préservatif, l'Église est contre le préservatif, quoi. Mm-hmm. Aussi contre les labos pharmaceutiques qui menacent les accès aux génériques, etc. Bon, en France, mais surtout dans plein d'autres pays où c'est encore plus galère d'avoir accès aux médicaments, quoi. Du coup, voilà. Et y a cette épidémie du sida, il y a cet état
qui ralentit les traitements, qui ralentit, qui prend pas en compte la santé des gens, quoi.
Ouais, et en fait, les années 80, c'est aussi la fin des années 80, c'est par exemple l'interdiction de la reconnaissance de concubinage par les couples homosexuels, ce qui est le concubinage est reconnu. À titre juridique, quoi, entre hétéros, mais pas pour les couples homo. Mais du coup, c'est aussi le début des années 90 qui va préfigurer des luttes pour le PACS, etc. Ensuite, c'est un peu les années 2000 où il va y avoir des possibilités d'adoption d'un enfant, de sa compagne, etc. Mais aussi en 2009 où on va refuser l'adoption à une personne homosexuelle. C'est aussi en 2019 l'interdiction des thérapies de conversion et en 2020 c'est le moment de la PMA.
Ouais, alors du coup la PMA a été autorisée aux couples de lesbiennes et aux femmes seules. Alors premièrement, elle est légale, mais elle reste très difficile d'accès, ce qui fait que certaines femmes, certains couples de femmes vont toujours à l'étranger, ce qui coûte très cher. Et par ailleurs, elle est toujours interdite aux personnes trans, d'une part, et d'autre part, les personnes trans ne peuvent pas librement disposer de leurs gamètes pour procréer. Donc Macron veut nous réarmer démographiquement, mais c'est seulement les hétéros, visiblement. Et en tout cas, pas les personnes trans. Tu voulais encore continuer?
Ouais,
moi je m'arrête plus jusqu'à la fin là.
Et non, je t'arrête. Parce que j'ai beaucoup aimé faire tout ça en mode date du brevet.
continuer. On te met 20 sur 20 là.
Merci. Prise chronologique.
La libération des gays.
Donc du coup, un peu toutes ces lois des années 80, et du coup, c'est un peu plus. L'ordre social, législatif, ça va être plus vers l'homophobie, qui va être un peu plus, en tout cas dans les textes, visé au niveau législatif, etc. Il va y avoir aussi l'utilisation de cette homophobie, enfin en tout cas de la défense genre de l'homosexualité, de la défense des femmes qui sont utilisées, mises à contribution pour établir un espèce de nouvel ordre social. Et en fait, on sait que le virilisme, l'homophobie, le racisme, c'est toujours à l'ordre du jour au niveau de la justice. C'est toujours à l'ordre du jour au niveau du traitement fait aux personnes, par exemple, trans, queer, par la police et dans la société. Les idées religieuses, homophobes, comme par exemple la manif pour tous,
C'est toujours à l'ordre du jour, pas plus tard que ce matin à Port-de-Vincennes. Des grosses affiches de la manif pour tous contre la GPA en racontant des trucs, j'ai même pas envie de les raconter. Des trucs sur le fait que à l'école, il faudrait toujours écrire père, mère et pas parent 1, parent 2. Enfin, et là, ils sont problème. Là et hop, ils ont changé de couleur. Hein, c'est plus rose et bleu, c'est rouge et noir. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une affiche de la Fédération anarchiste. Enfin, a priori. Voilà. La manif pour tout ça. Voilà. Donc voilà, bah, du coup, ils sont toujours, ils sont toujours là, a priori. Enfin, en tout cas, ils collent le matin en pleine journée. Donc voilà, si vous les croisez, n'hésitez pas à leur dire. Ouais, ça se trouve, ils collent que à Port-de-Vincennes. Chez eux, quoi, en fait. Ils ne bougent plus. On espère, en tout cas. Et tout ça pour dire que bah, tout ça, ça, voilà, ça continue. Et que c'est accepté aussi dans une partie de la société, de, ça ne dérange pas de renforcer le clivage entre minorités, etc., au profit des classes dominantes. Tout ça pour privilégier tous les privilèges que certains ont.
Ouais, je pense un bon exemple de ça, c'est notre Premier ministre est gay. Mais ça reste un ennemi de classe. Voilà, ça reste une personne qui est à la tête d'un gouvernement où il y a le plus de ministres, justement, issus de la manif pour tous. Un gouvernement raciste. Le Premier ministre lui-même a mis en place des politiques racistes au sein de l'éducation nationale qui ciblent les lycéennes et les collégiennes voilées. Toute la polémique autour de la baïa, c'est lui. Voilà, et sa politique et son gouvernement, en fait, met en danger la vie des pauvres et la vie des immigrés pour ne nommer que. Aussi ajouter que je parlais au début de l'émission de ces grosses campagnes anti-trans de mouvements réactionnaires qui font rage en ce moment et contre lesquels la lutte est nécessaire. Par ailleurs, l'accès au parcours de transition reste difficile et coûteux. Les démarches administratives mettent du temps, elles coûtent de l'argent et elles coûtent de la santé. Et tout ce dont on a parlé dans l'émission, l'abrogation de cette loi en 1982, n'a pas fait disparaître la violence et les agressions dans l'espace public, le rejet de certaines familles et, pour revenir sur les personnes trans, les refus de soins de certains praticiens, certains médecins qui ne veulent pas soigner des personnes trans. Donc que ce soit sur le front de la lutte homosexuelle ou de la lutte trans, il y a encore beaucoup de choses à faire et la lutte continue. Quoi.
Ouais. Et eux ils collent, nous on décolle. bon courage à toutes celles et ceux qui sont enfermés à l'intérieur.
À plus, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si vous avez des choses à ajouter, à nous écrire sur Insta pour ma part, mais aussi par mail pour d'autres.
Bonne soirée.
Salut.